Vous écoutez France Inter, il est 19h en métropole, 13h en Martinique. Le journal est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Un coup de théâtre au G7 de Biarritz où un invité surprise a fait son apparition. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, convié par la France pour essayer de rapprocher les points de vue. Mais pas question pour l'instant qu'il rencontre les officiels américains. Des portraits de Macron, la tête en bas, dans les rues de Bayonne, le symbole d'une politique qui n'a pas de sens pour les anti-G7 qui cherchent à renouveler les formes de la contestation. Plus d'un millier de départs de feu supplémentaires ces dernières 24 heures au Brésil, principalement en Amazonie, où des milliers de soldats ont été mis à disposition des secours. La communauté internationale peu à peu se mobilise. Dans ce journal également, ils ont été voisins le temps de leurs universités d'été à Toulouse. Mais les Verts et les Insoumis ne feront pas ensemble la fête des voisins. Un hypermarché sans caissier qui ouvre ses portes un dimanche après-midi. C'est une première en France, controversée. C'est à Angers. La dernière édition du Soir 3 tout à l'heure sur France 3, le journal lancé il y a 41 ans par Jean-Marie Cavada, passera demain sur France Info et s'appellera le 23h. En sport, en Ligue 1 de football, le Paris Saint-Germain à nouveau sans Neymar ce soir pour affronter Toulouse au Parc des Princes. Monaco n'a toujours pas gagné, 2-2 à domicile face à Nîmes. En rugby, victoire de Clermont sur La Rochelle dans le top 14, 28-10. Et des Bleus qui déçoivent en Écosse, c'était hier. Les joueurs et le staff veulent rester optimistes, ont-ils raison? À suivre dans le journal des sports dans un instant de Cédric Guillou. Enfin sur les routes, des retours chargés sur la 10 et la 7. Demain, circulation différenciée à Paris et à Lille. Du soleil et des températures partout supérieures à 30 degrés. C'est ce qui s'appelle la surprise du chef au G7 de Biarritz, un invité de dernière minute, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, dont l'avion s'est posé en tout début d'après-midi sans avoir été publiquement annoncé. Selon l'Elysée, la décision de l'invité aurait été prise à l'issue du dîner d'hier, mais pas question à ce stade qu'il rencontre des officiels américains. À ce stade, Bertrand Galichet, vous suivez ce G7 pour France Inter. Alors, c'est un coup de poker qu'a voulu tenter Emmanuel Macron sur ce dossier iranien, véritable pomme de discorde entre l'Europe et les États-Unis, mais il a pris le risque de fâcher le président Trump.
Voilà toute l'ambiguïté en effet de la gestion du dossier iranien et du manque de coordination surtout entre la France et les États-Unis. C'est pour tenter d'y remédier qu'Emmanuel Macron en a longuement parlé dès hier avec Donald Trump en l'avertissant de l'invitation surprise lancée à Mohammad Javad Zarif. Le ministre iranien n'est pas convié à la table du sommet. Il a vu séparément Jean-Yves Le Drian et aucune autre rencontre avec des pays du G7 n'est prévue. Une séquence étonnante qui relève plus de l'affichage que de la négociation sur les exportations de pétrole ou les missiles iraniens. Ces sujets de fond supposeraient d'impliquer directement les États-Unis. Alors c'est vrai, Français et Américains, comme les autres pays du sommet de Biarritz, sont d'accord sur l'objectif à atteindre, empêcher l'Iran d'obtenir une bombe atomique et éviter un embrasement au Moyen-Orient. Mais la méthode française est diversement commentée. Même la chancelière allemande, pourtant proche de la France sur la question iranienne, n'a pas apprécié d'avoir été mise dans la confidence au dernier moment. Angela Merkel parle de cette visite comme d'un événement parallèle au G7.
Bertrand Galichet en direct de Biarritz. Angela Merkel qui approuve toutefois cette initiative en jugeant qu'il faut utiliser toutes les options pour résoudre le conflit. Un G7 où tout tourne finalement autour du président Trump qui a encore douché les espoirs de ses partenaires tout à l'heure en excluant toute désescalade dans la guerre commerciale avec la Chine. Ce matin dans sa rencontre avec Boris Johnson, il a promis la conclusion d'un très important accord commercial avec le Royaume-Uni dès qu'il sera sorti de l'Union européenne. En marge de ce sommet, après les manifestations d'hier, c'est une autre forme de contestation qu'ont choisi ce matin les anti-G7. Une marche des portraits, en l'occurrence des portraits officiels d'Emmanuel Macron, récupérés dans les mairies dans le cadre d'une campagne de désobéissance civile. 128 mairies auraient ainsi été privées de la photo du président de la République, dont quelques exemplaires ont donc été brandis ce matin dans les rues de Bayonne, la tête en bas, pour mieux signifier du point de vue des manifestants que sa politique n'a pas de sens et qu'importe pour eux que ce vol de portrait officiel soit passible de sanctions, Mathilde Deimy.
Comme une transmission de génération devant les décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, Suzanne Georges, 85 ans, grande figure de l'altermondialisme, prodigue ses conseils.
Je voudrais dire, Monsieur Macron, que nous sommes dans une guerre pour changer notre façon de faire marcher nos transports, absolument tout.
Et quand on lui demande ce qu'elle pense de ses voisines qui ont à peine la vingtaine...
Les jeunes, je sais, c'est qui me donne de l'espoir.
La relève de la désobéissance civile est là. Cécile Marchand, 24 ans, porte-parole d'Alternativa ANV COP21, en procès le mois prochain pour avoir décroché un portrait.
On n'a plus le temps pour faire des beaux discours et aujourd'hui, c'est changer radicalement nos modes de production et de consommation. Ça suppose, comme l'expliquait Suzanne, de mener des efforts de guerre. Pour pouvoir générer cette mobilisation collective, il faut un président qui dise la vérité. Or aujourd'hui, on a un Macron qui ment aux Français, qui ment en leur faisant croire que sa politique elle est tout à fait dans les clous et qu'on est sur la bonne voie pour maintenir le dérèglement climatique en dessous des 1,5 degrés. C'est exactement l'inverse de ce qu'il nous faut.
Faire passer un message par le festif reste la meilleure méthode d'action pour Nadette d'Attaque.
Ce type d'action-là, c'est de l'éducation populaire en fait. C'est des gens sérieux, pacifiques. C'est certainement comme ça qu'on y arrivera à s'imposer.
Des militants qui préparent déjà les grandes manifestations climat de la fin septembre. Bayonne, Mathilde Deimy, France Inter.
Et parmi les sujets abordés à ce G7, on le sait, l'Amazonie avait été rajoutée à l'ordre du jour par Emmanuel Macron, selon lequel une vraie convergence serait dégagée des discussions pour aider au plus vite les pays frappés par les incendies. Des contacts sont en cours, selon le chef de l'État, pour finaliser des engagements concrets de moyens techniques et financiers. En attendant, sur place, deux C-130 Hercule brésiliens transportant chacun 12 000 litres d'eau sont entrés en action face aux feux qui se multiplient. On parle de plus d'un millier de départ de feu supplémentaires ces dernières 24 heures. À Sao Paulo, Juliette Onsard.
44 000 militaires sont mobilisés pour lutter contre les flammes dans 6 des États qui composent l'Amazonie brésilienne. Le ministère de l'Économie vient de débloquer 38 millions de reais, environ 8 millions d'euros, pour soutenir les troupes mobilisées par le ministère de la Défense. Depuis le début du mois d'août, plus de 78 000 nouveaux foyers ont été recensés. C'est 84% de plus par rapport à la même période en 2018. L'ancienne ministre de l'Environnement, Marina Silva, dénonce les pratiques du chef de l'État qui a, selon elle, commis toutes les erreurs possibles pour détruire la forêt. Emmanuel Macron, depuis le G7 de Biarritz, vient de promettre d'aider le plus rapidement possible les pays affectés par les incendies, tout en disant respecter la souveraineté du Brésil, voisin du département région d'outre-mer de la Guyane française. Sur Twitter, Jair Bolsonaro adresse un grand merci aux dizaines de chefs d'État qui l'ont entendu et aide à dépasser une crise qui intéresse ceux qui veulent affaiblir le Brésil. Fin de citation. Une déclaration qui vise indirectement le président français qui avait qualifié son homologue de menteur. À São Paulo, Juliette Onsa, France Inter.
Et ce soir, le président bolivien Evo Morales dit avoir accepté l'aide internationale pour combattre les incendies qui touchent également son pays. À propos de biodiversité, un espoir pour les loutres d'Asie, les loutres à pelage lisse menacées de disparition et dont la commercialisation devrait être prochainement interdite. Une centaine de pays ont voté pour dans le cadre du CITES, la Convention sur le commerce des espèces menacées actuellement réunie à Genève. Ils ont aussi décidé de réguler le commerce des requins macos ou requins taupes, qu'on trouve encore dans les océans, mais qui ont quasiment disparu de Méditerranée. En politique, les Verts et les Insoumis, même combat. En théorie, leurs universités d'été avaient beau se tenir au même moment, au même endroit, à Toulouse. Les rapprochements sont restés difficiles. Tout juste, l'électron libre François Ruffin est-il allé rendre visite aux voisins verts? Pour le reste, Alain Gastal, c'est « Je t'aime, moi non plus ».
Ils ont partagé une partie de foot et quelques manifs, ensemble mais bien peu nombreux pour l'Amazonie. En revanche, EELV n'a pas rejoint le défilé mélenchoniste contre la privatisation d'ADP. Mais il n'empêche, pour Stéphane, insoumis et militant CGT, les écolos et les insoumis doivent désormais faire route ensemble.
J'ai voté vert toute ma vie d'électeur avant 2017, et donc mon cœur, il est au moins aussi vert qu'à gauche. On converge tous ensemble vers un objectif commun, vivre ensemble dans une planète avec des ressources finies.
Mais ce qui coince pour beaucoup de militants, c'est le positionnement des Verts, un peu trouble pour Alex de l'aile gauche des mélenchonistes.
Jadot, il a quand même dit très clairement qu'il pensait qu'on pouvait gérer le capitalisme. David Cormon, il a dit au sein du Parlement européen, on peut faire une alliance avec les libéraux modérés. Non, je crois que là-dessus, ils ne sont pas clairs.
Et du côté de la direction de la France Insoumise, pas question d'alliance ou d'union avec quiconque, mais l'entente reste possible pour les municipales. Manon Aubry appelle au dépassement des logiques d'appareil.
Notre vision des choses, c'est de créer une dynamique autour de rassemblements citoyens. Et si ces dynamiques citoyennes peuvent être soutenues par Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, tant mieux.
Quant à rechercher un candidat commun capable de viser le second tour de la présidentielle, la question est, paraît-il, complètement prématurée. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Le dimanche au casino, c'est le jour de faire ses courses à Angers désormais, mais c'est un géant casino sans aucun caissier qui vient d'ouvrir ses portes cet après-midi et c'est une première en France pour un hypermarché. Le service est entièrement automatisé et le magasin qui faisait jusqu'à présent travailler ses employés le dimanche matin sera ouvert tous les dimanches après-midi jusqu'à 21h. Un scandale pour la CGT et son délégué central du groupe Jean Pastor.
On combat cette vision du mode de la consommation à outrance que le patronat veut imposer à la société française. Parce que sous couvert de dire qu'on rend service aux clients, c'est une demande des clients, c'est eux qui veulent nous imposer ce changement. Parce que les clients, moi je travaille dans un magasin, il n'y a aucun client qui vient taper le dimanche après-midi pour demander qu'on ouvre. Et le problème, il va au-delà de Casino, il va s'instaurer sur les autres enseignes. Casino, ils ouvrent, ben Carrefour qui est juste à côté, ben nous aussi on ouvre. Et le Auchan, ben nous aussi on va ouvrir. Quelque part, on est en train de faire un effet d'entraînement. Et le problème, c'est que Casino, ce qu'ils font, c'est tirer le maximum de profit et en enlevant le maximum de personnel.
Une centaine de personnes se sont rassemblées devant le magasin ce midi pour protester. Pour le directeur de l'hypermarché, Luc Simon, elles ont tort, car cette ouverture du dimanche après-midi, dit-il, c'est juste un service supplémentaire pour les consommateurs.
Aujourd'hui, les gens, ils font leurs courses sur Internet, dans leur canapé, le dimanche après-midi. Nous, aujourd'hui, si on veut concurrencer Internet, on est obligé de mettre des services et des outils au service de nos clients. C'est pas une source d'économie, c'est un service supplémentaire. Il n'est pas question de se passer des collaborateurs. Si un jour la loi change et nous autorise à faire travailler nos salariés le dimanche après-midi, pourquoi ne pas faire travailler des salariés, bien sûr.
Des propos recueillis par Adèle Bossard. En bref, une nouvelle plainte contre Tariq Ramadan, l'islamologue suisse déjà mis en examen pour 2 viols, est accusé cette fois par une journaliste qui dit avoir été violée à l'occasion d'une interview dans une chambre d'hôtel à Lyon en mai 2014 par Tariq Ramadan et l'un de ses collaborateurs. Le parquet de Paris a délivré fin juillet un réquisitoire supplétif qui pourrait entraîner de nouvelles poursuites et surtout entraîner un retour en prison de l'intellectuel musulman. Allez, la fin d'une époque ce soir sur la 3, le dernier numéro d'un journal qui avait vu le jour il y a 41 ans, Soir 3. La chaîne s'appelait alors FR3. Diffusé en fin de soirée à des horaires variables, il avait gardé en moyenne dans les 500 000 fidèles. Pas sûr qu'il en retrouve autant sur le canal 27 de France Info, où Soir 3 s'appellera désormais le 23h. Une hérésie pour les syndicats et les journalistes qui seront en grève demain, soutenus par de nombreux députés et maires ruraux, soutenu également par l'ex-eurodéputé, ex-présentateur télé et fondateur de Soir 3, Jean-Marie Cavada.
On essaie de faire avaler ça au motif qu'on va transplanter sur France Info. Il faut savoir que ça va diviser mécaniquement l'audience de ce journal par 10. Et je voudrais dire une chose qui touche à la morale citoyenne dans cette affaire. Le journal d'information qui est payé par la redevance, il a un but simple, c'est de donner aux citoyens un éclairage sur la société dans laquelle ils vivent afin de se former eux-mêmes un jugement. Eh bien, moi, je prétends que des mesures de cette nature conduisent à un dérèglement citoyen, et c'est pour moi d'une extrême gravité, parce que l'information, eh bien, c'est quelque chose qui est nécessaire. France Télévisions sera le seul groupe public en Europe parmi les grands groupes à ne plus avoir de journal de deuxième partie de soirée. Mais ça, c'est une très mauvaise décision civique.
Jean-Marie Carrella au téléphone de Bernard Thomasson. Avant la route et la météo, un mot en ce week-end de retour de ceux qui partent en vacances. Faut pas croire que d'un seul coup tous les hôtels et les campings se soient vidés. Beaucoup continuent d'enregistrer des arrivées, comme ici au camping Horizon de Frontignan, Elena Loison.
À l'heure où certains prennent la route pour rentrer, Thierry et sa famille déballent leurs affaires dans leur mobilhome.
On a fini de ranger, on va passer à l'apéro. C'est le début des vacances.
Ils ont pris la voiture tôt ce matin depuis l'Ardèche. 6 heures de route pour quelques jours de repos, les seuls de l'année pour Sylvie.
C'est moins cher, il y a moins de monde. et on tombe sur des bonnes saisons et en principe on n'est jamais déçu. Franchement c'est bien, il y a moins de monde sur les routes en plus, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages.
À peine installée dans le bungalow d'en face, Morgane et ses amis 27 ans sont passés à la plancha. Si elle est une habituée des vacances tardives, avec les années, elle est de moins en moins seule sur les plages en septembre.
C'est quand même très touristique, il y a toujours du monde. Il y a moins de monde qu'en été, mais il y a du monde, ça bouge quoi. Il y a toujours autant de trucs à faire, donc pour nous c'est l'idéal. Tant qu'on n'a pas d'enfants, c'est l'idéal.
En une matinée, tous les emplacements du camping de Nathalie Castel sont à nouveau occupés.
Ils économisent parce que il y a des tarifs, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et c'est vrai que de payer moins cher le logement, du coup, ils peuvent faire des festivités à côté. Au mois de juillet, il y a une légère baisse au niveau de la consommation des glaces, des cocktails.
Grâce à cette seconde saison qui commence, son camping affiche complet en semaine jusqu'à la fin du mois de septembre.
Voilà, et pas de regret pour ceux qui rentrent, ça va bien se passer. En attendant, il y a encore beaucoup de monde ce soir sur les routes, Cyril Ardot.
Oui, notamment dans le sud de la France, sur l'autoroute A7, comptez environ 1h30 entre Orange et Valence, contre 1h habituellement. Du monde au moment de passer Vienne, et puis pareil dans le sud de Lyon, dans le secteur de Fézin, et aussi pour rejoindre la 6 par le tunnel de Fourvière. Vous ne serez pas tout seul, c'est chargé sur l'A61 entre Narbonne et Toulouse, sur l'A10, un peu avant Saintes et jusqu'à Tours, même chose, vous perdez environ 10 minutes, et puis entre Le Mans et Paris sur la 11, là encore, il y a du monde. Et puis deux péages particulièrement chargés ce soir, en région parisienne, celui de Saint-Arnoult en Yvelines sur l'A10 et celui sur la 11 à Mantes-la-Ville. Soyez patients, jusqu'à un quart d'heure, 20 minutes, vous seront peut-être nécessaires avant de pouvoir payer.
Cyril Ardot, OPC Mobilité de Radio France. J'ajoute qu'en raison d'une pollution à l'ozone, la circulation différenciée est mise en place demain en Ile-de-France à l'intérieur du périmètre de l'A86, ce qui veut dire que seuls les véhicules disposant d'une vignette critère 0, 1 ou 2 peuvent circuler. Même chose dans l'agglomération lilloise où les critères 3 seront également autorisés. Le temps, c'est beau et c'est chaud. Jean-Michel Golinski.
La dernière semaine du mois d'août commence en fanfare avec la poursuite de conditions estivales sur la plus grande partie du pays, dans des températures maximales qui vont afficher 30 à 36 degrés en général, avec 30 à Rennes, La Rochelle, Tarbes, Nice et Ajaccio, 32 à Metz et Lyon, 33 à 34 en basse vallée du Rhône et du Nord au bassin parisien, 35 à 36 du Poitou-Charentes en allant vers le Nivernais, la Garonne, le Berry et le Limousin. C'est naturellement en bord de mer que l'on va trouver un air un peu plus respirable. À noter comme aujourd'hui un temps plus chargé sur la façade atlantique, une matinée souvent bouchée au sud de la Garonne, également des entrées maritimes mais fugaces sur les côtes normandes et dans le golfe du Lion, et la possibilité de voir éclater l'orage en seconde partie de journée sur la Provence et sur la Corse.
19h17, on passe au sport. Le journal des sports, c'est avec vous, Cédric Guillou, bonsoir.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous.
On commence par le foot, troisième journée de Ligue 1, qui se poursuit tout à l'heure avec, qui s'est poursuit aujourd'hui avec tous trois matchs au menu.
Oui, exactement. Et le Stade Rennais est leader provisoire de la Ligue 1 après son succès il y a quelques minutes, 2-0 à Strasbourg. En début d'après-midi, Monaco avait concédé le match nul 2-partout devant Nîmes. Un match qui avait été brièvement interrompu en raison, une nouvelle fois, de chants homophobes dans les tribune du stade Louis II, chant homophobe de la part de quelques supporters nîmois, et c'est l'attaquant du Nîmes Olympique, Rémi Ripard, qui avait calmé ses propres supporters.
Bah, il me dit voilà, que d'arrêter pour, au niveau des chants, hein, des chants homophobes. Voilà, j'ai fait passer le message aux supporters, ça a été entendu, et puis je pense qu'ils ont été réprochables après tout le long, donc voilà, c'est bien.
Rémi Ripard, l'attaquant du Nîmes Olympique. Et puis ce soir à 21h, le Paris Saint-Germain accueille Toulouse, toujours sans Neymar, qui n'a pas été retenu dans le groupe par l'allemand Thomas Tuchel. Le Brésilien, on s'en souvient, avait été la cible de banderoles vindicatives de la part des plus fervents supporters parisiens. C'était il y a 15 jours lors de la venue de Nîmes au Parc des Princes. Bonsoir Bruno Salomon.
Bonsoir Cédric.
Alors Bruno, est-ce qu'on peut s'attendre au même traitement pour le Brésilien ce soir de la part de certains supporters du PSG ?
Alors écoutez, pour être discuté avec certains responsables du collectif Ultra Paris, à première vue, pas de banderole prévue contre Neymar. En revanche, c'est un dossier qui est toujours aussi sensible pour les supporters du côté du Paris Saint-Germain, qui veulent vraiment...
Alors Bruno, on ne vous entend pas.
Il y a des serpents
à côté. On a compris qu'il n'y aurait sans doute pas de banderole vindicative à l'encontre du Brésilien ce soir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et Paris, sportivement en tout cas, va devoir réagir parce que se souvient que les Parisiens avaient concédé leur première défaite de la saison. La semaine dernière à Rennes, Paris Saint-Germain, Toulouse, le coup d'envoi sera donné à 21h au Parc des Princes. Notez que cette troisième journée de Ligue 1 va se poursuivre mardi et mercredi, puisque trois rencontres ont été reportées en raison de la tenue du G7 en France en cette fin de semaine. Mardi, il y aura Montpellier contre Lyon, et puis mercredi, deux matchs Lille-Saint-Etienne et Nice-Marseille.
Et puis les féminines ont également repris ce week-end.
Ah oui, cet après-midi, le Paris Saint-Germain a étrié Soyaux, succès des Parisiennes, 7-0. Les Parisiennes qui seront les principales concurrentes des Lyonnaises cette saison, qui ambitionnent de leur côté un 14e titre de championne de France consécutif. Lyon qui s'est baladé également hier contre Marseille, une victoire 6-0. Et Lyon qui est encore très fin cette saison, c'est ce que nous dit l'attaquante Eugénie Le Sommer.
L'objectif, c'est de gagner tous les trophées encore cette année, et ça change pas. Et quand on voit la détermination de l'équipe, on ressent une certaine envie, et ça change pas.
Eugénie Le Sommer, l'attaquante de l'Olympique Lyonnais, notez que le premier acte du grand choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain se sera programmé le samedi 16 novembre.
En rugby, c'est reparti pour le top 14.
Et il y avait un dernier match aujourd'hui pour cette première journée. L'opposé Clermont à La Rochelle avec la victoire des Clermontais 28-10. Hier, Bayonne, Toulon, Lyon, Castres, Pau et l'Union Bordeaux-Bègles avaient également gagné. Gagner les Bleus l'avaient fait il y a une semaine contre l'Écosse. On les sentait lancés pour la Coupe du Monde qui va commencer pour le 21 septembre prochain au Japon. Ce sera contre l'Argentine. Et puis hier à Édimbourg, eh bien les hommes de Jacques Brunel ont perdu leur deuxième match de préparation face à ces mêmes Écossais, défaite 17-14. Bonsoir Fanny Le Chevestrier.
Bonsoir Cédric.
Alors que faut-il retenir de ce match? On a entendu après ce revers les Bleus dire qu'ils ne s'inquiétaient pas. Est-ce qu'ils ont raison de ne pas s'inquiéter?
Faut pas s'affoler même. C'est voilà. Ce qu'ils nous ont dit. Bien, je vous répondrai que ça dépend de ce qu'on espère en fait de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'hier ces joueurs du 15 de France, mais aussi le sélectionneur Jacques Brunel, ont tenu un discours assez étonnant, qui a fait parler en se déclarant très confiant malgré la défaite. C'est assez surprenant. Mais Jefferson Poirot, le vice-capitaine des Bleus, s'est justifié en disant « Il faut se souvenir d'où l'on vient. » Si on se place de ce point de vue-ci, c'est clair qu'il n'y a pas de raison de paniquer parce que finalement les Français sont dans la droite ligne de ce qu'ils ont fait toutes ces dernières années. Ou par exemple, juste si on prend le dernier tournoi Destination avec seulement deux victoires, l'une contre l'Italie et l'une contre l'Écosse, mais c'était à domicile, à la maison. Voilà. Après, si on croit au miracle durant la Coupe du Monde et au fait que l'on puisse tout changer en un seul été, c'est sûr que l'on peut paniquer avec une attaque assez peu consistante hier où les deux essais ont été marqués sur des exploits individuels. On peut s'inquiéter aussi quand on regarde le match des Anglais hier face à l'Irlande, l'Angleterre, futur adversaire des Bleus.
Ils ont
cartonné, aussi en amical et eux, eh bien, ça ne les a pas empêchés d'infliger un 57-15 à l'Irlande qui avait aligné sa belle équipe.
Alors, trois matchs de préparation pour les Bleus avant le début de la Coupe du Monde. Il y en a eu deux contre les Écossais. Il y en aura un dernier. Ce sera vendredi soir face à l'Italie. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce match, Fanny?
Eh bien, les Bleus nous ont dit que c'est à ce moment-là, après cette rencontre, qu'ils dresseraient un vrai bilan de la préparation pour la Coupe du Monde. Donc, on a hâte d'y être. Et l'Italie est a priori plus faible que l'Écosse. Donc, on ne pourra pas, en fait, vraiment tirer de grands enseignements, même en cas de victoire espérée. Ce sera surtout l'occasion de voir des joueurs tenter de briller, comme Anthony Bello ou Vincent Rattès, qui n'ont pas encore joué durant cette préparation et un dernier match qui va tomber trois jours avant l'annonce de Jacques Brunel des 31 sélectionnés pour la Coupe du Monde au Japon. C'est donc la dernière occasion de briller pour eux. Le premier match au Mondial, on le rappelle, c'est le 21 septembre face à l'Argentine. L'Argentine, pas au mieux du tout en ce moment si vous cherchez un signe d'espoir pour les Bleus.
Fanny Le Chevestrier, spécialiste du rugby à Radio France. Au Japon, on en parlait avec cette Coupe du Monde qui se profile dans moins d'un mois maintenant. Et bien, il y a à Tokyo en ce moment les championnats du monde de judo. Il n'y a pas eu de podium pour la délégation française aujourd'hui. Juste une 5e place pour Mélanie Clément en moins de 48 kilos.
Du tatami à la piste d'athlétisme, des résultats contrastés pour les Français hier soir au meeting de Paris-Charletti.
Oui, à un mois des championnats du monde qui auront lieu à Doha, au Qatar, Christophe Lemaître a terminé 5e du 200 mètres, à 5 centièmes des minima de la fédération française. Il pourrait malgré tout être repêché et participer à ces championnats du monde. Déception pour le perchiste Renaud Lavillenie qui a échoué de son côté à 3 reprises à 5 m 70. En revanche, il y en a un qui a brillé, c'est Kevin Mayer. Il a remporté le triathlon en battant son propre record personnel au lancer du poids et au 110 mètres haies. Kevin Mayer, vous le savez, c'est un spécialiste des épreuves combinées. Il fait partie des athlètes qui ont très peu l'occasion de s'illustrer lors des meetings de la Golden League. C'est l'équivalent de la Ligue des champions de l'athlétisme. Et il veut que tout cela change. Kevin Mayer.
On va vraiment essayer de rendre ça possible, mais vraiment, si on le fait, il faut vraiment le faire à fond. Et il faut essayer de trouver quelque chose qui soit attirant pour tous les décathloniens. Pas seulement faire quelque chose et qu'ils viennent en bénévole, non, qu'on soit traité comme les autres athlètes, qui est tout ce qu'il faut, toute l'attraction qu'il y a dans une Diamond League pour tout le monde. Bah, il faut que ce soit pareil pour les décathloniens. Il faut qu'il y ait un vainqueur Diamond League du triathlon. C'est que comme ça qu'on va réussir à faire un très beau circuit épreuve combinée Diamond League. On nous demande de venir en bénévole pour l'instant. Bien sûr, j'ai une prime d'engagement, etc. Je dis pas, je me plains pas, etc. Mais je dis juste que pour faire venir d'autres personnes, des gens qui sont aux États-Unis, des gens qui sont en Chine ou au Japon, il faut qu'il y ait un retour financier. C'est obligé, c'est leur travail. Personne ne va au bureau le matin sans être payé. Ben là, c'est pareil. Maintenant, si on veut créer quelque chose à long terme, il va falloir que les épreuves combinées soient mises au même niveau que les autres épreuves.
Kevin Mayer au micro de Vincent Pellegrini. Notez que c'est mardi que l'on va connaître la liste des athlètes français retenus pour ces mondiaux de Doha. Demain, c'est le début de l'US Open de tennis, le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Bonsoir Fabrice Abgral.
Bonsoir Cédric.
Un bon bonsoir Fabrice depuis New York. Comme d'habitude, Fabrice, chez les messieurs, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic seront les favoris.
Il suffit de regarder les statistiques pour s'en convaincre. Ces trois-là ont remporté depuis 3 ans les 11 derniers tournois du Grand Chelem. Mais des trois, c'est Djokovic qui se détache légèrement. D'abord parce qu'il reste sur une victoire majuscule et magistrale à Wimbledon. Et ensuite parce que le numéro 1 mondial s'est adjugé 4 des 5 derniers tournois du Grand Chelem. À New York, Djokovic visera un 17e titre majeur. Mais il visera aussi le petit chelem, c'est-à-dire remporter dans la même année 3 des 4 majeurs. Exploit qu'il a déjà réalisé en 2011 et 2015. Raphaël Nadal, lui, s'est imposé 3 fois à New York. La dernière fois, c'était en 2017. Une victoire cette année à New York lui permettrait de porter à 19 son nombre de titres majeurs. Il ne serait plus alors qu'à une longueur du record absolu détenu par le maître, Roger Federer. Lui aussi, c'est un sérieux prétendant au titre, évidemment, même si le Suisse n'a plus gagné à New York depuis 11 ans. Il s'est imposé 5 fois d'affilée entre 2004 et 2008, mais depuis, plus rien. S'il s'impose, Federer remportera son 21e titre majeur, son 6e à l'US Open, et il détiendra seul le record du nombre de victoires à New York.
Alors Fabrice, on parle de Nadal, de Federer, de Djokovic chez les hommes. En revanche, chez les dames, le tournoi apparaît particulièrement ouvert.
Tournoi très ouvert en effet, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie chez les dames, c'est simple, les 11 derniers tournois du Grand Chelem ont été remportés par 9 joueuses différentes, dont 3 cette année, Osaka à Melbourne, Barty à Roland-Garros et Alep à Wimbledon, mais tous les regards seront tournés une nouvelle fois vers Serena Williams. L'américaine visera un 24e titre du Grand Chelem, ce qui lui permettrait en cas de succès d'égaler le record absolu détenu depuis 1973 par l'Australienne Margaret Court. Seul souci, c'est que Serena Williams a perdu ses 3 dernières finales en Grand Chelem, à Wimbledon et à l'US Open l'an passé, et une nouvelle fois à Wimbledon cette année, à chaque fois rattrapé par la pression de l'enjeu, écrasé par le poids historique de l'exploit.
Fabrice Abgral, l'envoyé spécial de Radio France à New York, donc pour le début demain de l'US Open de tennis. Du cyclisme avec le Tour d'Espagne, c'était aujourd'hui la 2e étape avec une victoire du Colombien Nairo Quintana qui retrouve des jambes. Il avait déjà gagné une étape sur le Tour de France. Il a gagné aujourd'hui cette 2e étape. Il y a un nouveau leader, c'est Nicolas Roche. De la moto avec le Grand Prix de Grande-Bretagne et le succès de l'Espagnol Alex Rins. Aujourd'hui de l'équipe Suzuki, les Français Zarco et Quartararo ont chuté et donc abandonné. Et puis en équitation, pas de médaille en individuel pour les Français au championnat d'Europe de Rotterdam. Le meilleur d'entre eux, c'est Alexis de Roubaix. Il a terminé à la 13e place.
C'était le journal des sports de Cédric Guillou.